Bonjour à tous, et encore une nouvelle fois, bienvenue à Victoire Centre Chrétien. Donc, je suis Philippe Boulanger, je suis membre de l'équipe pastorale de cette église, et je m'occupe notamment de la jeunesse, voilà, parce que nous croyons en la jeunesse. Jésus a dit que c'était important de considérer les enfants. Alors aujourd'hui, je remercie le pasteur qui m'a donné l'occasion de pouvoir prêcher la parole de Dieu, parce que c'est quelque chose que j'aime faire, et puis il m'a donné une directive. Et vous savez que cette année, nous avons reçu une vision et un thème dans cette église de la part du pasteur. Il a élaboré un thème qui est celui « Vous êtes la prunelle de ses yeux ». Et il a développé 5 points. Et moi, aujourd'hui, j'aimerais m'inscrire dans le 4e point de cette vision 2012. Et le 4e point dit ceci « Valoriser les talents de chacun grâce au fonctionnement en équipe qu'il s'agit d'implanter dans chaque domaine de l'église ». Car nous pouvons accomplir bien plus ensemble que tout seul. Cette église a une direction et une vision qui est celle d'implanter des équipes dans chaque domaine de l'Assemblée. Ça, c'est la vision. Et on va voir pourquoi on fait cela et dans quel but. Et on avait ce verset, parce que vous savez, lorsque c'est une chose de donner le cap, c'est une chose de donner la direction, mais il faut garder le cap. Si vous prenez l'avion, et vous pensez à aller à Paris. Le pilote vous dit, c'est annoncé, vous partez à Paris. Il vous donne le cap. Mais après, il doit garder le cap, le pilote, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas aller à Amsterdam si vous allez à Paris. Et c'est la même chose avec une vision. Une vision, c'est donner une direction. Mais après, notre devoir, c'est de garder le cap, c'est de garder cette direction. OK? Donc, nous avions un verset clé qui est 1 Pierre 4:10. Et que dit 1 Pierre 4:10? Oh, ce verset, je l'aime beaucoup. Il dit, « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous, combien d'entre vous ? Que chacun de vous mette au service de qui ? Mette au service des autres le quoi ? Le don qu'il a reçu. » Et vous savez, j'ai médité sur ce verset et j'en suis arrivé à la conclusion suivante. Est-ce que vous savez que le don que vous avez reçu n'est pas pour vous ? Le don que vous avez, le talent que vous avez n'est pas pour vous-même, il est pour les autres. Si par exemple vous êtes doué en chant, vous pouvez chanter sous votre douche, vous pouvez chanter dans votre appartement, mais le but c'est d'en faire bénéficier les autres. Le but c'est d'être sur une estrade et que les autres bénéficient de votre beau chant. Vous pouvez être un enseignant, mais vous n'allez pas enseigner aux pierres ni aux fleurs. Moi ça m'arrive. Vous savez, quand je prêche pas et j'enseigne pas pendant un certain temps, je commence à prêcher aux fleurs et aux cailloux. Ils répondent pas encore amen. Mais pourquoi? Mais c'est parce que c'est tellement en moi. C'est tellement ancré en moi qu'au bout d'un moment, si ce don il sort pas, il sort dans les cailloux. Il sort dans les fleurs. Parce que mon don n'est pas pour moi-même, il est pour servir les autres. C'est la même chose pour un écrivain. Vous pouvez écrire un livre, mais vous pouvez le garder chez vous. Mais si vous écrivez un livre, faut l'emmener chez l'éditeur. Parce qu'il faut en faire bénéficier les autres. Donc c'est ça que dit Pierre ici, ton don n'est pas pour toi, ton don est pour servir les autres. Ça c'est la clé de ce verset. Souvenez-vous de la parabole des talents. La parabole des talents dit quoi? Je sais que la parabole des talents parle d'un métal, parle d'argent. Mais on pourrait faire une analogie avec le temps, le talent naturel ou le don que nous avons. Souvenez-vous, le maître dit ceci, il a donné à l'un, à un serviteur, il a donné 5 talents. À l'autre, il a donné 2. Et au dernier, il a donné 1. Le premier avec les 5 talents, il a fait fructifier son don, il a fait fructifier son talent, et qu'est-ce qui s'est passé? Il en a chopé 5 autres. Le second, le deuxième, il a fait la même chose. Il en a reçu que 2, mais il a doublé et il en a obtenu 4. Qu'est-ce qu'a dit le maître? Il a dit, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Celui qui avait qu'un seul talent, il a fait quoi? Il ne l'a pas fait fructifier. Son don, il ne l'a pas fait fructifier, il l'a enterré dans la terre. Il l'a enterré, et qu'est-ce qu'a dit le maître quand il est revenu? Nous sommes dans Matthieu chapitre 25, si vous voulez la référence. Il a dit, mauvais et paresseux serviteur. Donc nous voyons que selon la parole de Dieu, les choses que nous avons reçues, nous devons les mettre au profit des autres. Sinon, vous êtes une source qui est en train de se tarir, vous êtes une source qui est en train de dessécher, et c'est pour ça que vous êtes frustré dans votre travail, parce que votre travail ne correspond pas à votre don. Donc ce qu'on veut faire ici dans l'église, c'est que chacun puisse mettre au service des autres le don qu'il a reçu. Et Pierre dit une autre chose. Dans 1 Pierre 4:10, il dit de mettre notre don au service des autres. Et dans 1 Pierre chapitre 2, verset 5, il dit « Et vous-même, comme des pierres vivantes. » Comme des pierres vivantes. Le titre de mon message, c'est « Apporte ta pierre à l'édifice. » Et selon Pierre, qui est la pierre ? Ah, c'est pas mal ça. Selon Pierre, qui est la pierre ? C'est vous la pierre. Il dit « Comme des pierres vivantes. » Qui est censé construire l'Église ? Nous sommes censés bâtir l'Église parce que nous sommes les pierres vivantes de l'édifice de Christ. Donc lorsque je dis « apporte ta pierre à l'édifice », apporte ta contribution à l'élévation, à la construction, à l'établissement de l'Église. Apporte ta pierre, ton don à l'édifice de l'Église. Est-ce que vous êtes avec moi ? Tournons en Matthieu chapitre 16 maintenant. Nous allons voir ce que dit le maître. Que dit Jésus en Matthieu 16, verset 18 ? Est-ce que vous me suivez ? Apporte ta pierre à l'édifice. Apporte ton don. Apporte ton talent. Ne l'enterre pas, mais fais-le fructifier parce que tu vas en bénir beaucoup d'autres. C'est ça que ça veut dire. Que dit Jésus ? Donc, vous savez, on est dans le contexte ici où Pierre reconnaît que Jésus est le Messie. Et Jésus dit ceci, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Alors, la première chose que j'aimerais mentionner ici, c'est que Jésus lui-même parle de bâtir son Église. En d'autres termes, il y a une différence entre aller à l'Église et bâtir l'Église. Ici, Jésus utilise le mot « bâtir ». Je vais bâtir mon Église. Et si vous allez dans Éphésiens chapitre 2, on ne va pas le tourner, mais il est écrit que Jésus est la pierre angulaire. C'est quoi la pierre angulaire ? C'est la pierre qui fait l'angle, ok ? La pierre qui est à l'angle de l'édifice. Il est la pierre angulaire, et ce passage d'Éphésiens chapitre 2 dit autre chose. Il dit qu'il y a Jésus qui est la pierre angulaire, ensuite il y a le fondement des apôtres et des prophètes, mais après l'édifice, il n'est pas fini. L'église n'est pas encore construite. Parce que vous êtes une pierre et je suis une pierre et il faut mettre notre pierre dans l'édifice pour construire l'église. L'église est toujours en construction. Jésus a fini son mandat. Il a accompli sa part, mais son corps n'a pas encore accompli sa part. Nous devons contribuer, nous devons apporter notre pierre vivante à l'édifice de Christ. Autre chose, je bâtirai mon église. Le mot église ici en grec, c'est le mot ecclésia. Que veut dire ecclésia ? Ecclésia veut dire assemblée, une assemblée. Donc Jésus est en train de dire ici en Matthieu 16, 18, il dit « Je vais construire, je vais bâtir mon assemblée ». Alors laissez-moi vous faire une petite remarque. Combien d'entre vous, vous savez qu'il y a une différence entre un rassemblement et une assemblée ? Je vous donne un exemple. J'ai un ami qui est maçon. Et quand j'étais en études, j'allais avec lui sur les chantiers. Parce qu'il faut gagner des sous quand on est étudiant, n'est-ce pas ? Les étudiants, vous connaissez ça, hein ? Il faut étudier, il faut aussi gagner des sous. Pas toujours évident. Et mon ami Brice, qui fait de la maçonnerie depuis 15 ans maintenant, j'allais avec lui, mais moi j'étais l'aide. Donc qu'est-ce que je faisais ? Moi je rassemblais les pierres pour monter le mur. Mais les pierres, elles n'étaient pas assemblées. Brice assemblait les pierres. Moi je les rassemblais. Donc on peut se rassembler le dimanche matin, mais ça ne veut pas dire qu'on est assemblé. On est assemblé lorsque on forme vraiment un corps, lorsque les pierres sont les unes sur les autres et elles sont d'aplomb. Là, on commence à former l'ecclésia de Christ, l'assemblée de Christ. Vous comprenez cela ? Tant que nous ne fournissons pas notre part, notre don aux autres, il y a quelque chose, l'édifice va souffrir, il va y avoir une pierre manquante. Et après, on va dédoubler les pierres, on va utiliser plusieurs personnes pour boucher le même trou, mais cette personne va s'épuiser et il y a une source qui va dessécher. Parce qu'elle n'est pas en train d'utiliser son don et son talent. Est-ce que vous êtes avec moi ? Vous êtes toujours là ? Donc la différence entre un rassemblement et une assemblée. Et regardons en Éphésiens maintenant, chapitre 4. Donc Éphésiens 4 parle des différents dons du ministère. Et au verset 16, il est mis quelque chose de très intéressant ici. Est-ce que vous avez trouvé Éphésiens chapitre 4, verset 16 ? C'est de lui et grâce à tout, à combien de biens, à tous les liens de son assistance, que tout le corps, est-ce que c'est marqué qu'une partie du corps ici? Non. Que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage. L'Ecclésia, l'Église de Christ, est censée former un solide assemblage à l'échelon local. Un solide assemblage. Ça veut dire que toutes les pierres vivantes que nous sommes, elles forment un solide assemblage. Et ça tient. Et il dit ensuite, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Et vous voyez la grande image. Jésus est venu bâtir son ecclésia. Il est venu bâtir son assemblée. Nous ne sommes pas seulement rassemblés. Jésus veut dire, je veux bâtir quelque chose. Nous devons, les pierres vivantes que nous sommes, nous devons nous mettre ensemble, chacun trouver sa place, et on construit l'église comme cela. Alors comment passer de ce rassemblement à cet assemblage? Comment passer de ce rassemblement à cette assemblée? Comment passer de ce rassemblement à cet assemblement? C'est ça qu'on veut savoir. Comment on le fait? On le fait en instituant et en implantant des équipes dans chaque domaine de l'Église. Je reprends l'exemple de mon ami Brice. Lorsque nous étions sur le chantier, Brice et moi-même, nous étions en train de construire le mur en briques. Mais il y avait une autre équipe en même temps qui travaillait et qui était en train de ferrailler. Une autre équipe en même temps travaillait et était en train de faire le coffrage. Une autre équipe en même temps travaillait et était en train de bétonner. Vous voyez que pour construire une maison, pour construire un édifice dans le naturel, il faut avoir plusieurs équipes. Et après, il y a le corps de métier. Il y a d'autres. Ça, c'était les maçons. Mais après, il y a les électriciens qui venaient. Après, il y a les sanitaires qui venaient. Et chaque corps de métier, chaque équipe était en train de travailler sur un aspect de la maison et on était en train de bâtir la maison. Nous devons bâtir l'Église de Christ. Nous devons le faire par le biais des équipes. Comme ça, chaque équipe peut travailler en même temps sur quelque chose. De manière simultanée. Pas faire une équipe fait ça et après on attend 3 semaines. Non, on peut avoir une équipe qui travaille sur quelque chose, la même semaine une autre équipe qui travaille sur autre chose. Et comme ça, on travaille simultanément et on construit l'Église. Donc, dans chaque organisation, que ce soit l'Église ou dans votre travail, l'unité fondamentale, c'est l'équipe et c'est pas l'individu. Si vous travaillez tout seul, vous allez accomplir bien moins que si vous travaillez en équipe. Donc l'équipe, c'est l'unité fondamentale de chaque organisation efficace. Et ça, vous pouvez aussi l'implanter dans votre travail. Si vous dirigez une entreprise, si vous dirigez une organisation, si vous dirigez une organisation non gouvernementale, formez des équipes. Sinon, vous allez brûler les bons éléments que vous avez et il y a certaines personnes qui ne vont pas pouvoir entrer, qui ne vont pas pouvoir aider. Donc on forme des équipes pour que tout le monde puisse participer et que tout le monde s'approprie la vision. Pour nous, c'est l'Église, parce que nous sommes dans l'Église, d'accord? Donc, l'équipe est l'unité fondamentale de chaque organisation efficace. Et pourquoi travailler en équipe? Mais est-ce que c'est biblique de travailler en équipe? Tournez avec moi dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Verset 34. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 34. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Nous parlons de Jésus ici. Jésus opérait dans l'esprit sans mesure. Jésus avait la pleine mesure de l'esprit sur lui. Pourtant, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a choisi de former une équipe. Pourtant, il avait la pleine mesure de l'esprit. Il aurait pu tout faire tout seul. La Bible dit, ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Donc nous, aujourd'hui, en tant que membres de l'Église, en tant que membres du corps de Christ, nous n'avons pas l'esprit sans mesure. Nous avons chacun reçu une mesure de son esprit. C'est ce qu'on appelle l'onction. L'onction, c'est quoi? C'est avoir une mesure de son esprit sur soi. Mais Jésus, la tête de l'Église, opérait vraiment dans la pleine mesure de l'esprit. Pourtant, il a choisi d'opérer en équipe. Pourquoi il a fait ça? Parce que Jésus savait que son temps sur terre était limité. Et que s'il ne forme pas quelqu'un, lorsque lui part, son église ne va plus exister. Il s'est dit, je dois former des successeurs. Jésus a compris ceci, il n'y a pas de succès sans successeur. Donc si Jésus ne formait pas des disciples, il ne pouvait pas partir. C'est pour ça que lorsque les disciples reviennent dans Luc chapitre 10, et ils sont tout contents, même les démons, les esprits nous sont soumis. Et Jésus voit, oh, je voyais comme le diable qui tombait. Mais Jésus se réjouissait parce qu'il dit, ils ont compris. Ils ont compris, j'ai transmis mon savoir. Maintenant, je peux m'en aller. Ils ont compris, j'ai réussi à transmettre, j'ai réussi à déléguer mon savoir, j'ai réussi à faire d'eux des disciples. Maintenant, je peux partir en paix et je leur enverrai l'esprit. Jésus a décidé d'opérer en équipe parce qu'il avait un plan qui s'appelle l'Église et qu'il fallait qu'il les forme pour qu'il y ait une succession. Si vous montez un projet et que vous ne formez personne et que quand vous arrêtez, ce projet échoue, ça veut dire que vous avez tout fait sauf du leadership parce que vous n'avez équipé personne. Donc si même Jésus, qui opérait vraiment dans la plénitude de l'Esprit, a choisi d'opérer en équipe, alors nous, qui opérons avec seulement une mesure de l'esprit, est-ce que nous pouvons nous permettre d'opérer tout seul? Ah, je pose la question. Pas forcément. Donc, nous qui avons chacun une mesure de son esprit, nous devons nous mettre ensemble. Tony Cook, un de nos enseignants à Genève, il a dit ceci. Il y avait deux militaires. Et en fait, il y a chacun qui avait perdu un bras, ils étaient en train d'écouter un concert. Et en fait, là où il y avait le bras manquant, ils se sont mis ensemble. Et quand ils aimaient, ils applaudissaient tous les deux comme ça. Donc, un avec la main droite et l'autre avec la main gauche. Et c'est ça qu'on doit faire dans l'Église. C'est se mettre l'un à côté de l'autre, compléter les dons de chacun pour pouvoir bâtir l'Ecclésia de Christ. Ici, à Nice, parce que nous, nous sommes à Nice. Alors, comment réinventer la construction de l'Église locale en équipe? Comment on va le faire? Et qu'est-ce que nous donne la parole de Dieu comme élément? Donc, nous avons déjà fait une formation fonctionnement en équipe. Je vous informe que nous allons refaire. Donc, le mardi 3 et le mardi 10 juillet, au lieu de l'école de prière, il va y avoir deux sessions le mardi 3 et deux sessions le mardi 10 de la formation fonctionnement en équipe. Ne vous inquiétez pas, on bouscule un peu les habitudes, mais une église qui grandit, elle bouge. Alors, il ne faut pas qu'on s'encrasse un peu. Oh, mais mardi, c'est l'école de prière. Non, ça sera fonctionnement en équipe. Il ne faut pas qu'on s'enlise trop dans nos petites habitudes, d'accord? Donc on a décidé de faire cela, on voulait le faire avant l'été. Donc, ne paniquez pas, il y a beaucoup d'informations. Si vous voulez venir à la formation, venez le mardi 3 à 19h au lieu de 19h30 et le mardi 10 et vous aurez un papier, vous pourrez remplir toutes ces choses. Maintenant, je vais les parcourir, d'accord? Alors, qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Ésaïe chapitre 11. Comment réinventer l'église locale en équipe? Comment apporter sa pierre à l'édifice? Parce que c'est ça le message. Comment chacun peut apporter sa pierre à l'édifice? On le fait en créant des équipes. Si tu es membre d'une équipe, tu peux apporter tes éléments de réponse. Tu peux apporter tes plans, tu peux apporter tes idées, tu peux apporter tes recommandations. Et dans le monde professionnel, c'est la même chose. Je regardais un reportage l'autre fois, il y a une dame, une commerciale, elle était frustrée parce qu'elle ne pouvait pas parler à son dirigeant, parce qu'elle ne pouvait pas lui soumettre ses idées. Alors quand tu es dans une équipe, il y a un dirigeant, il y a des équipiers et on peut soumettre ses plans, ses idées, ses recommandations. Qu'est-ce que nous dit Ésaïe 11, verset 2? L'Esprit de l'Éternel reposa sur lui en parlant de Jésus. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc là, ça parle de Jésus, c'est une prophétie de Jésus qui parle que tous ces esprits-là vont reposer sur lui. Mais vu ce que Jésus a fait à la croix, nous avons aussi ces esprits à disposition. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 16 dit que nous avons la pensée de Christ. Donc nous avons aussi l'esprit de sagesse. Nous avons chacun d'entre vous, pas seulement le pasteur, chacun d'entre nous, nous avons l'esprit de connaissance, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, esprit de crainte de l'Éternel. Et connaissance, intelligence, sagesse. On va se focaliser sur ces trois. Ces trois termes reviennent dans toute la parole de Dieu. Exode chapitre 31, c'est quand les artisans étaient qualifiés pour construire le tabernacle, Dieu a donné un esprit de connaissance, d'intelligence et de sagesse. Dans le livre des Proverbes, c'est la même chose. Ça parle d'un esprit de connaissance, d'intelligence et de sagesse. Paul et Timothée prient pour les Colossiens qu'ils soient quoi? Qu'ils soient remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. À nouveau, connaissance, intelligence, sagesse. Donc si ces trois choses reviennent dans l'Ancien Testament, dans les Proverbes et dans le Nouveau Testament, c'est que Dieu essaye de dire quelque chose là. Donc il faut bien comprendre ces termes, il faut bien comprendre ces notions de connaissance, intelligence et sagesse. La connaissance, c'est quoi? C'est de l'information. La Bible dit, c'est bien d'avoir de la connaissance, mais la connaissance seule, elle enfle. Édifiez-vous dans l'amour. La connaissance, c'est à être informé de quelque chose. Moi, j'étais stagiaire dans le journalisme, j'étais dans le business de l'information. C'est ça, on va chercher des informations, on va chercher de la connaissance pour informer les autres. La connaissance, c'est équivaut à de l'information. L'intelligence, c'est autre chose. L'intelligence, ce n'est pas seulement de la formation, c'est de la compréhension. Donc, tu obtiens de l'information et après, tu ajoutes de la compréhension à cela. Donc, lorsque la Bible dit connaissance, intelligence, sagesse, elle dit information, compréhension. Alors, le mot sagesse, alors ça, apparemment, c'est pas forcément toujours très bien compris. Le mot sagesse, c'est pas un concept nébuleux qui est dans les nuages. La sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est l'application de la connaissance. La sagesse, c'est savoir appliquer ce que tu sais déjà. Ça, c'est être sage. C'est que tu sais et tu l'appliques. Pourquoi Jésus est-il appelé la sagesse de Dieu dans Corinthiens? Jésus est appelé la sagesse de Dieu parce qu'il est l'application de Dieu sur terre. Il est l'empreinte de sa personne, dans Hébreu. L'empreinte parfaite. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est ce qu'il a dit Jésus, n'est-ce pas? Jésus est sagesse de Dieu parce qu'il est l'application de Dieu sur terre. C'est ça la sagesse. C'est savoir appliquer ce qu'on le connaît déjà. Donc lorsque nous appliquons information, compréhension et application, c'est comme ça qu'on réinvente l'église locale. Et on le fait comment? Par le biais des équipes. Est-ce qu'on peut aller au prochain slide, s'il vous plaît? On va prendre ce verset et on va vraiment le tirer dans la longueur, comme ça. Ensuite, dans Proverbes chapitre 3, versets 19 à 20. Là, j'ai choisi la version Darby. Simplement pour que ça colle bien avec les termes. Parce que certaines traductions de connaissance utilisent le mot science. Ok? Donc, dans la version Darby, Proverbes 3, versets 19 et 20, il est écrit quoi? L'Éternel a fondé la terre par quoi? Par la sagesse. Il a établi les cieux par quoi? Par l'intelligence. Par sa quoi? Par sa connaissance, les abîmes se fondirent et les nuées distillent arrosées. Donc, je ne suis pas sûr de comprendre vraiment dans le concret comment Dieu a fait ça, mais la parole de Dieu le dit, donc je le crois. C'est-à-dire qu'il a fondé la terre par ces trois éléments. Par l'information, par la compréhension et par l'application. On va tirer un peu plus loin. Donc là, on nous dit que Dieu opère de cette manière. Donc si nous voulons construire l'église locale, est-ce que vous pensez que ce serait bien d'opérer de cette manière? Vous pouvez dire non, mais moi je pense que oui. Proverbe 24, versets 3 et 4, nous sommes toujours dans la version Darby. Proverbe 24, versets 3 et 4, il est écrit « Par la sagesse, tiens, de nouveau, ou en d'autres termes, par l'application, la maison est bâtie. Elle est établie par l'intelligence. » À nouveau le terme intelligence. Et par la connaissance, mais décidément ces trois, ils s'aiment bien. Et par la connaissance, les chambres sont remplies de tous les biens précieux et agréables. Donc là, nous voyons que la maison est bâtie. Nous avons vu que le tabernacle a été bâti parce que Dieu a donné ces trois esprits. Ces esprits d'Ésaïe 11. Ces esprits d'Ésaïe 11 sont aussi sur nous maintenant. Donc par la sagesse, la maison. Donc là, on peut parler d'une maison X ou Y. Mais nous, la maison que nous voulons établir, bon, c'est déjà notre propre maison, mais c'est la maison de Dieu, l'Ecclésia de Christ, l'Église de Christ. Donc, on va tirer un peu plus loin dans une traduction anglaise. Donc là, je n'ai pas trouvé d'équivalent en français. On l'appelle la Living Bible. Et en fait, ce même proverbe, 24, 3 et 4, il est écrit ceci. Il est écrit, donc là, j'ai fait une traduction libre, donc c'est ma traduction de ce verset. N'importe quelle entreprise, n'importe quelle, que ce soit l'église ou une entreprise quelconque, n'importe quelle entreprise est bâtie par une planification sage, devient forte par le bon sens et profite des biens précieux en consultant les faits. Si on peut mettre le prochain, s'il vous plaît. Donc la Living Bible en anglais dit ceci. Si tu veux bâtir quelque chose, ils te font un plan. Est-ce que vous allez bâtir votre maison sans un plan? Non. Vous ne pouvez pas bâtir votre maison sans un plan. D'abord, vous avez besoin du plan, et après, vous allez appliquer le plan. Donc, non seulement il faut une planification sage, le mot intelligence, compréhension est rendu par bon sens. Il nous faut du bon sens. Et la connaissance ou l'information est décrite dans cette traduction par les faits. En d'autres termes, si tu veux construire quelque chose, que ça soit l'église, que ça soit ta maison, il te faut d'abord des faits. Combien ça va coûter? Quel est le prix du terrain? Etc. Après, tu vas appliquer du bon sens à ce que tu sais. Lorsque tu as acquis de la connaissance, tu vas appliquer du bon sens. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que ça veut dire qu'on n'est plus conduit par l'Esprit de Dieu? Absolument pas. C'est combiné. Tu peux être conduit par l'Esprit de Dieu. Ah, va visiter ce terrain. Et tout d'un coup, après, tu appliques le bon sens. Oh, et tiens, ça colle. Donc, il te faut d'abord les faits. Il te faut des indicateurs pour lorsque tu vas construire. Tourne avec moi en Luc chapitre 14. Parce que vous pensez là que... Je parle juste de moi-même, mais c'est Jésus qui dit. Luc chapitre 14, verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, donc là on parle nouveau de bâtir quelque chose, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Donc Jésus nous dit aussi quelque chose. Il nous dit, il te faut des indicateurs avant de prendre des décisions. Il te faut ensuite, sur ces indicateurs, il faut que tu appliques de la compréhension, il faut que tu appliques du bon sens. Et ensuite, tu établis un plan et ensuite tu appliques ce plan. Quelle est l'implication de tout cela dans le cadre des équipes? Alors là, on va voir le rôle du dirigeant et le rôle de l'équipe. Parce que mon message, c'est apporte ta pierre à l'édifice. Si tu es dans une équipe, tu vas pouvoir apporter ton esprit de conseil, tu vas pouvoir apporter ton esprit de sagesse, tu vas pouvoir apporter ton esprit de connaissance. Il y a des choses que vous savez et que d'autres personnes ne savent pas. Parce que vous avez un parcours particulier, parce que vous avez une éducation particulière, parce que vous venez d'une culture particulière. Et ça, c'est tous des éléments que nous devons mettre ensemble pour pouvoir construire l'édifice de Christ et être assemblés. Pas seulement rassemblés, mais assemblés. Il y a des choses, certains, vous avez une carrière professionnelle brillante, mais on a besoin de vos talents, on a besoin de vos dons pour construire l'Église. Certains d'entre vous, vous brassez des millions. Alors vous avez certainement de la sagesse concernant comment manager ces ressources. Certains d'entre vous, vous êtes dans les ressources humaines, vous savez comment travailler avec les gens. Vous avez tous un travail, vous avez tous un don, mais si vous ne le mettez pas au service des autres, vous êtes en train de vous dessécher. J'aimerais prier à la fin pour ceux qui ont l'impression que dans leur place de travail, ils sont en train de dessécher. Parce que Dieu a mis un potentiel en vous. Et moi, mon cœur, c'est de voir ce potentiel maximisé en vous. Vous savez, le rôle d'un leader, ce n'est pas d'oppresser les gens. Si tu utilises les gens pour que toi, tu ailles plus haut, ça, ce n'est pas du leadership. Un leader, il n'oppresse pas les gens, il libère les gens. Qu'a fait Moïse? Moïse n'a pas oppressé le peuple. Moïse était un bon leader, il a libéré le peuple d'Égypte. Donc si tu utilises les autres pour que toi tu ailles plus haut, ça c'est pas du leadership. Ça c'est penser juste à sa pomme. Mais lorsque tu t'impliques dans la vie des autres pour pouvoir les élever, ça c'est du leadership. Donc, le rôle du dirigeant et le rôle de l'équipe. Est-ce que c'est possible d'avoir les deux ensemble? Voilà. Donc maintenant, toutes ces choses qu'on a vues, on va les mettre ensemble. Si tu es un dirigeant dans ta place de travail, il faut que tu te remplisses de la connaissance des faits. Tu dois être au courant de ce qui se passe dans ton groupe de travail ou dans ton groupe de projet ou dans ton entreprise. Dans le cadre de l'église locale, par exemple, on se retrouve autour du pasteur, mais moi je sais mieux en ce qui concerne mon domaine que le pasteur lui-même. Donc lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit saisir, prendre connaissance des faits qui se passent dans mon domaine. Qui apporte les faits sur la table? C'est l'équipier. Parce que l'équipier est plus proche. L'équipier est plus proche des faits. Il sait mieux ce qui se passe dans son domaine que le pasteur. Donc le dirigeant rapporte, demande les faits sur la table et l'équipier les amène. En d'autres termes, c'est l'équipier qui amène la connaissance sur la table et dans le cadre de l'Église, le pasteur reprend cette connaissance. Donc ça, c'est par rapport à la connaissance. Vous savez que le premier échelon, c'est connaissance, l'information. On a besoin d'indicateurs pour construire quelque chose. Ensuite, le rôle du dirigeant, en étape 2, c'était quoi? Intelligence. Il sollicite l'intelligence de son équipe. Le dirigeant sollicite l'intelligence de son équipe. C'est pour ça qu'un bon leader, c'est quelqu'un qui sait s'entourer de personnes qui sont plus forte que lui dans d'autres domaines. Ça, c'est une équipe qui gagne. Ce n'est pas des gens qui ont les mêmes qualités que toi. Moi, je ne suis pas un administrateur. Donc, si je forme une équipe, je vais demander à quelqu'un qui est fort en administration. Par exemple, on s'entoure des qualités que nous n'avons pas. Ça, c'est l'intelligence d'un bon leader. Il sollicite l'intelligence de son équipe. Donc, il n'utilise pas l'équipe pour se monter lui-même. Il utilise l'esprit de conseil, l'esprit de force qui est autour de lui, l'esprit de sagesse, l'esprit de crainte de l'Éternel. Et tout d'un coup, il y a une idée qui va jaillir. Et ce n'était pas ton idée, c'était l'idée de l'équipe. Rôle de l'équipe, qu'est-ce que fait l'équipe ? L'équipe fait preuve de bon sens. On regarde les indicateurs ensemble. Par exemple, s'il y avait 10 groupes de maisons et tout d'un coup, il n'y en a plus que 8, voilà un indicateur, voilà un fait. Alors toute l'équipe des dirigeants de groupes de maisons vont commencer à faire preuve de bon sens, de compréhension. Pourquoi ça s'est produit ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne peut plus diriger pour une raison quelconque ? Là, on applique le bon sens. On cherche la cause et le problème, la cause et la conséquence liée au problème. Mais là, on fait réfléchir toute l'équipe, pas seulement une personne. Parce que la Bible dit que le salut est dans le grand nombre de conseillers. Il faut s'entourer de conseillers. Et ensuite, dernier échelon. Donc là, c'est application, sagesse. Le dirigeant, qu'est-ce qu'il fait ? Il dirige le changement à l'aide d'un plan. Ça, c'est son rôle. Quel est le rôle du dirigeant ? C'est de diriger d'une façon positive et constructive le changement. Et ensuite, une fois que le plan est établi, l'équipe applique sagesse, application, et elle bâtit l'église. Je sais que ça peut paraître un peu complexe, mais c'était pour vous donner un avant-goût d'où va l'église, de qu'est-ce qu'elle veut faire par l'implantation de l'équipe. Elle veut imiter Jésus, qui lui-même a formé une équipe. Parce qu'on a envie que cette église n'existe pas seulement pendant 5 ans ou 10 ans, mais on a envie de laisser un héritage derrière nous. On a envie d'équiper les gens. Alors, est-ce que ça vous fait envie d'apporter votre pierre à l'édifice ? Tu as un don qu'il faut mettre au service des autres. Sinon, tu es en train de... Vous savez, moi, j'ai fait des boulots. Pour vous dire, j'étais sur un pont quand j'étais en études et je faisais rouge-vert. Pour faire passer les camions. Et là, je vous promets, il fallait gagner de l'argent, mais quand vous êtes toute une journée sur un pont et vous faites rouge, vert, vous faites le feu, comprenez ? Je faisais ça, mais à un moment, il y a quelque chose qui crie en vous, qui dit, mais je n'ai pas été créé seulement pour ça. Moi, j'ai envie de maximiser ce qu'il y a là-dedans. Et c'est ce qu'on veut faire par le biais des équipes. C'est maximiser votre don, maximiser votre potentiel, maximiser votre capacité. Et comment on le fait ? Joins une équipe ! Donne tes idées, donne ton esprit d'intelligence, donne ton esprit de conseil, donne ton esprit de sagesse. Mais comment on le fait ? On ne peut pas le faire comme ça le dimanche. Si tu fais partie d'une équipe, à ce moment-là, tu peux apporter ta pierre à l'édifice. Waouh ! Nous sommes tous une pierre vivante appelée à bâtir l'Église de Christ. Il n'y a pas de différence. Il y a différentes fonctions, mais nous sommes tous appelés à le faire. Et est-ce que vous avez de l'imagination ? Est-ce que vous avez de l'imagination ? Moi, j'en ai. Moi, je suis quelqu'un d'assez visionnaire, donc je peux assez facilement imaginer les choses. Vous savez, vous fermez les yeux, vous commencez à imaginer les choses. Moi, j'imagine les choses. Et imaginez un instant, si chacun décide d'être une pierre et de bâtir l'église, l'impact qu'on peut avoir dans la ville. Imaginez si chacun d'entre vous commence à bâtir l'église. Imaginez l'impact qu'on peut avoir là. Imaginez un petit peu lorsque tout le monde met son expérience qu'il a au travail, l'expérience qu'il a par sa sagesse, l'expérience qu'il a par son âge. Et là, moi, ça, vous savez, dites avec moi, si chacun se dit l'édifice n'est pas complet, l'édifice n'est pas complet sans moi. On le dit une fois ? L'édifice n'est pas complet sans moi. Il y a des trous ici. Et c'est ta pierre. Donc, je vous encourage vraiment à être une pierre vivante. Et n'oubliez pas d'apporter votre pierre à l'édifice. Soyez bénis. Oui. Oui, comme je l'ai annoncé, c'est vrai qu'en préparant ce message, et pour l'avoir vécu aussi, certains d'entre vous, vous occupez une fonction actuellement parce qu'il y a des besoins à couvrir il y a des factures à payer, mais en fait, vous êtes en train de vous dire, je suis en train de dessécher dans cet endroit. Cette place de travail, oui, c'est une bénédiction parce qu'elle m'apporte des ressources financières, mais je n'ai pas du tout l'impression d'aider l'entreprise à avancer. J'ai juste l'impression d'être un pion. J'ai l'impression que je ne peux pas apporter ma connaissance, je ne peux pas apporter mon expérience, je ne peux pas apporter mes idées. Et bien, vous savez quoi ? Moi, j'ai envie qu'on prie pour ça. Et j'ai vraiment envie qu'on libère l'Esprit de Dieu et que vraiment vous puissiez être placé dans un endroit où vous allez maximiser votre potentiel et vous allez maximiser vos capacités et devenir celui et celle que Dieu a prévu que vous soyez. Est-ce que ça vous botte ? Est-ce que ça vous encourage ? Donc ceux qui sont frustrés dans votre travail, moi j'ai envie qu'on prie ensemble et puis vraiment qu'on puisse demander à l'Esprit de Dieu de vous équiper de cet esprit-là. On a vu qu'il a qualifié les artisans dans l'Ancien Testament, mais il va qualifier son Église aussi pour que vous soyez une influence divine là où vous êtes. Amen. So, shall we have worship or... Donc, je pense que... Qui va jouer? Ok. Donc, le pasteur va jouer quelque chose. Et si vraiment ça correspond à quelque chose que vous êtes en train de vivre, demandons-le du Seigneur. Et on se met d'accord et on va prier pour cela. Vous êtes motivés? C'est bon?